du bien-être au travail, du bonheur, des professionnels de l'enfance engagés et des enfants bien accueillis. Bienvenue sur Radio Catherine, un podcast où nous parlons d'environnement professionnel et éducatif positif. Je m'appelle Catherine Medviller, je suis coach en institution d'accueil de l'enfance et directrice de crèche. Mon intention avec ce podcast, c'est de vous inspirer, de vous donner des clés, d'impulser un maximum d'ondes positives. Et pour réaliser ça, je pars à l'aventure avec mon van, à la rencontre de professionnels engagés qui placent l'humain et le bien-être au cœur de leur mission professionnelle. Si vous souhaitez me suivre dans cette aventure, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast que je publie sur mon site Catherine Coaching et que vous trouvez également sur les plateformes de podcast. Aujourd'hui, j'ai pris la route en direction du Chasseron, dans le canton de Vaud, à la rencontre d'Esther Bals. Fondatrice et directrice de la structure d'accueil préscolaire La Boutique à Neuchâtel, Esther Bals est une femme pleinement engagée dans le domaine de l'enfance. Durant de nombreuses années, Esther Bals a été présidente de l'ANDIP, qui est l'association neuchâteloise des directeurs et directrices d'institutions pré- et parascolaires, et elle a également fait partie du comité de l'association Pro-Enfance, une association qui vise à contribuer au développement de l'accueil de l'enfance en Suisse. Aujourd'hui, en plus d'exercer sa mission de direction, elle est également présidente de la Fondation Carrefour, qui est une fondation neuchâteloise qui œuvre en faveur des enfants, des adolescents et des familles en difficulté sociale ou comportementale. Dans cet épisode, Esther Bals partage son parcours, sa vision, son expérience ainsi que les clés qui lui permettent de favoriser une culture d'entreprise qui est propice à l'épanouissement de chaque personne, du plus jeune au plus âgé. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce cinquième épisode de Radio Catherine où j'ai le plaisir d'accueillir Esther Bals. Bienvenue à toi, salut.
Salut Catherine.
Je suis très heureuse de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Tu as une longue carrière de direction d'institution de l'enfance et d'ailleurs tu as créé ta propre crèche La Boutique qui a fêté ses 17 ans cette année. Et j'ai d'ailleurs eu l'occasion de travailler dans cette crèche à la fin de ma formation d'éducatrice et puis vraiment j'en garde un souvenir rempli d'épanouissement professionnel. Et puis de pouvoir ressentir et puis vivre une telle expérience, c'est vraiment quelque chose que je souhaite à toute personne. Ton management et puis ton leadership m'ont ensuite d'ailleurs largement inspirée. Je suis très contente de pouvoir t'entendre sur ce sujet aujourd'hui. Et puis par la suite, j'ai aussi inscrit mon fils à La Boutique. J'ai aussi pu vivre et ressentir aussi l'expérience de l'autre côté. Même si finalement, je n'ai pas vraiment le sentiment que c'était de l'autre côté parce que par cette vision que vous avez dans votre projet, les parents font vraiment partie du même système, donc c'était vraiment aussi une superbe expérience. Et aujourd'hui, je me réjouis que tu partages ta vision de la mission professionnelle qui t'anime, et puis aussi que tu partages les clés qui ont permis quelque part à cette structure d'évoluer avec autant de qualité. Je me réjouis de tout ça. Mais tout d'abord, Esther, tu m'as donné rendez-vous ici, on est donc proche du Chasseron.
C'est ça.
Ça nous offre un panorama à la base plutôt magnifique, sauf que là, aujourd'hui, c'est un peu couvert. Mais on devine et puis on imagine que c'est très, très beau. Alors, qu'est-ce que tu peux peut-être déjà nous dire pourquoi tu m'as emmenée jusqu'ici? En quoi ce lieu est-ce qui t'inspire le bonheur et le bien-être?
Alors, c'est vraiment un lieu que j'apprécie particulièrement. Donc, moi, j'ai grandi en campagne genevoise et puis après, j'ai été habitée sur Neuchâtel et puis finalement... Avec ma famille et mon mari, on s'est installé à Champagne, donc qui est vraiment en bas du Chasseron. Et ce que j'aime avec le Chasseron, c'est que c'est un lieu où dès que je monte les trois premiers virages, je lâche tout en fait. Et c'est vraiment un lieu que j'aime me retrouver, je me ressource, j'aime pouvoir prendre de la distance. J'ai l'impression que quand j'ai des choses qui m'oppressent ou qui me demandent énormément d'attention, de concentration ou de réflexion, ben depuis en haut, je vois les choses du bas tout petit et ça me permet vraiment de prendre du recul. C'est un lieu où j'aime autant me balader en hiver qu'en été. Donc, on a acquéri en famille toutes les raquettes. Alors maintenant, on est plutôt en couple puisque nos grands-enfants ne suivent plus forcément. Mais on aime vraiment être là en hiver parce qu'on est souvent en-dessus du brouillard aussi. Et puis, sinon, on vient aussi en VTT ou en marche, en randonnée. C'est vraiment un lieu qui me permet de respirer. Et j'ai vraiment besoin de respirer parfois parce que on se rend compte dans notre vie professionnelle, en tout cas, je ne sais pas, celle des autres, mais la mienne et je vois celle des personnes que je côtoie, c'est très intense et exerçant un métier de relation, c'est vrai que ça demande beaucoup constamment, ça me demande, c'est quelque chose que j'aime vraiment parce que c'est aussi, c'est pour ça que j'ai fait le choix du métier de la relation, mais j'ai besoin des fois de vider ma tête, de respirer et de voir plus large et puis d'être dans un milieu naturel, je pense que ça me replonge dans mes premiers instants en tant qu'enfant où la nature était mon lieu de ressourcement, de découverte, d'exploration, donc un lieu hyper rassurant. Donc en me retrouvant là-haut, c'est tout ça en fait qui s'anime en moi.
Merci. Et d'ailleurs, donc le thème du podcast, c'est le bonheur et le bien-être au travail. Pour toi, c'est quoi alors le bonheur au travail ou le bien-être?
C'est une vaste question, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun déjà, ça c'est sûr, et c'est quelque chose que je crois vraiment que chaque personne est responsable de créer et de produire. Donc on a tous une responsabilité par rapport à ça. Et puis ayant vécu des moments dans le travail où j'étais pas dans cette situation-là, où je sentais un inconfort, ça a été rapidement une quête dans ma vie de me dire « Ok, ces inconforts-là ne souhaitant plus y être, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place ?» Ou qu'est-ce que je vais faire pour plus me retrouver là? Alors, il y avait la fuite et l'évitement, mais ça, c'était une stratégie de survie parfois, mais qui n'ont pas été à long terme. À long terme, je me coupais des gens, donc ce n'était pas du tout le but. Donc, ouais, le bonheur au travail, c'est d'être en accord avec soi-même, avec les choses qui nous sont demandées de faire, les choses que l'on fait, être en accord avec nos valeurs, avec nos ressentis, c'est un tout. Et je pense que comme on est des êtres fondamentalement d'émotions et de ressentis aussi, c'est un bon indicateur pour nous de savoir dans quelle sphère on est, si on est heureux, joyeux. Et puis après, ça émane des gens, donc on voit bien les gens qui sont heureux et satisfaits dans leur job, quoi.
Oui. Donc comme je l'ai dit dans l'introduction, tu as fondé ta propre crèche il y a 17 ans. Et tu avais d'abord démarré ta carrière en te formant d'ailleurs comme jardinière d'école enfantine.
Jardinière d'enfants. C'était sur Genève. Et puis jardinière d'enfants, c'est vraiment le métier d'éducateur de l'enfance entre 18 mois et 5 ans. Il y avait un autre métier pour les plus jeunes, c'était le métier de nurse. Et puis j'étais l'avant-dernière volée. Après, ils ont réuni ces deux formations, nurse et jardinière d'enfants, qui ont fait qu'après le statut, c'était éducatrice de l'enfance. Et donc, je suis devenue éducatrice de l'enfance au sortir de ma formation parce que j'étais en poste dans une structure qui accueillait des enfants de 0 à 5 ans.
Excellent. Donc finalement, ça a toujours été clair pour toi que c'était le métier dans lequel tu voulais exercer.
Oui. Alors, c'était très, très clair, mais depuis toute petite. À l'âge de 8 ans, j'ai eu une petite sœur et c'est devenu mon joujou. Parce que j'étais déjà très poupée. C'est un milieu où j'ai beaucoup, beaucoup joué à la poupée, en fait. J'ai beaucoup joué à la maman. C'était quelque chose qui m'animait. D'ailleurs, c'est un de mes plus grands rêves, c'était de fonder une famille. Après, j'ai vu que c'était pas si simple que ça, mais voilà, c'était quand même un rêve.
C'est plus facile avec les poupées.
C'est ça.
Pour ce qui est mal,
on les range.
Et ils dorment.
C'est ça. Et puis du coup, j'ai eu ma petite sœur. Et puis ça a été vraiment un déclic en moi. Et je me suis dit, waouh, en fait, les enfants, c'est génial. Je veux vraiment prendre soin d'eux. Alors c'était de nouveau en toute méconnaissance de ce que ça impliquait. Mais ça a en fait tracé ma ligne au niveau des formations. Donc c'était très rapide. Je savais exactement le cursus scolaire que je devrais faire pour arriver dans ce métier-là. Et puis après, j'ai choisi les 0,4 ans, 0,5 ans. Après, c'est vrai que les lois ayant changé, parce que j'ai fait cette formation il y a 30 ans, donc après, ça s'est ouvert à 0,12. Et puis ça a changé, il y a eu tous les parascolaires qui sont arrivés et tout ça. Mais je suis vraiment restée 0,5 ans, enfin 0,4 ans jusqu'à l'entrée à l'école, parce que ça fait aussi partie de mon histoire. Je me suis rendue compte qu'en devenant parent, tous les enjeux qui se passaient en fait en devenant parent, et j'ai voulu me positionner en tant qu'acteur dans ce champ d'action là en fait, avec les 0-4 ans et ce que ça impliquait pour les familles.
Donc effectivement, depuis que tu travailles dans le domaine, tu t'es en parallèle toujours beaucoup engagée en fait dans de nombreuses associations en faveur de l'enfant, que ce soit chez Pro-Enfance ou avec l'association Landip, qui est l'association neuchâteloise des directrices. Et puis là, tu as eu des fonctions aussi de présidence ou des positions aussi vraiment où tu t'engageais énormément. Est-ce que tu peux peut-être partager c'est quoi ce parcours qui t'a amené à t'engager autant en faveur de la qualité de l'accueil?
Ah, c'est un long parcours, en effet. Quand tu les nommes comme ça à la suite, je me dis, waouh, c'est un sacré parcours. Mais juste pour dire que chaque fois que le poste s'est présenté, je me suis jamais sentie avoir les compétences de. Donc ça a toujours été un défi de me dire, ok, mais j'arrive là en fait. Et puis c'est souvent des gens qui se sont approchés de moi en fait pour me dire, mais est-ce que toi on te verrait bien? Et avec l'incertitude que j'avais, je me suis dit, bon, peut-être qu'en effet, c'est quelque chose qui est possible, mais j'étais pleine de crainte en fait au début.
Ok.
Et puis, mais en même temps, je me suis vite rendu compte dans le métier de l'enfance qu'il y avait beaucoup d'enjeux politiques et que c'était un tout en fait. Et que si je ne considérais pas mon métier dans un système au niveau ou de la commune où j'étais inscrite ou du canton ou comme ça, ça allait être compliqué. Oui, j'aurais pu faire mon petit bonhomme de chemin, mais je trouvais que ça allait beaucoup plus loin que ça. Et je me suis vite rendu compte qu'il fallait tisser des liens et s'engager en fait pour simplement... être la voix que ce que ces enfants n'arrivent pas, parce qu'ils n'arrivent pas, c'est pas possible pour eux d'être déjà une voix pour eux-mêmes. Ça vient un petit peu plus tard, mais en tout cas pour la prime enfance, j'ai toujours vu, en fait, j'ai été aussi inspirée par des personnes qui arrivaient à élever une voix pour que les choses changent. Et je me suis dit, ok, alors si c'est un métier qui me tient tellement à cœur, il faut que j'aie aussi le courage d'être une voix et de pouvoir nommer leurs besoins pour que les choses s'adaptent petit à petit et évoluent en fonction de l'évolution aussi de l'enfant et de tout ce qui se passe dans nos sociétés actuellement.
Excellent. C'est vrai qu'on sait que l'une des clés justement du bonheur et du bien-être au travail, c'est de mettre du sens, d'avoir un sens qui est plus large que sa propre personne, un sens qui nous dépasse. Donc c'est vraiment aussi une des clés qui nous permet de mener des carrières épanouissantes. Parce qu'on sait qu'une perte de sens, eh bien ça nous démotive, on peut avoir des brown-out, comme on les appelle, et puis ça peut être catastrophique, surtout dans notre domaine, si on n'a plus de sens dans ce qu'on fait. Est-ce que toi, tu peux nous partager peut-être aussi, toi, le sens du coup que tu mets derrière l'accompagnement des enfants? Tu parlais avant des enjeux justement qu'il y a autour. C'est quoi l'enjeu alors d'un accompagnement de qualité, de l'accueil de qualité pour les enfants?
Je ne sais pas si j'ai une réponse toute faite à cette question-là, mais je pense qu'on est beaucoup de professionnels à le penser comme ça. Chaque être humain est un être unique avec un potentiel. Ça, c'était tout d'un coup, quelque chose qui est devenu très très clair dans mon parcours en fait. Chaque être humain a un potentiel. Et puis je suis issue d'une école où ce que j'avais compris, en tout cas qu'on m'avait enseigné, c'était que en tant qu'adulte, nous étions là pour remplir ces petits êtres humains, pour qu'ils acquièrent une connaissance. Et au fil de mon parcours et des observations que j'ai faites, je me suis rendu compte que ce n'était pas comme ça en fait, mais que justement, comme l'être humain arrive avec un potentiel de base à être révélé, je devais plutôt me positionner à côté d'eux afin que toutes ces compétences puissent émerger et puis être justement quelqu'un qui connaisse vraiment comment ça se passe en lui pour le nommer et puis exprimer à sa place ce qu'il était en train d'acquérir. Donc ça donne du sens à pourquoi un enfant, pourquoi est-ce qu'il est important de mettre un enfant sur le ventre alors qu'il peut être majoritairement sur le dos. Enfin, chaque chose, pour moi en tout cas, chaque action devrait pouvoir expliquer le sens qu'il y a derrière. Et puis, du coup, j'ai regardé en fait tout mon travail tout d'un coup avec cette perspective-là. Et je me suis dit, ok, donnons un sens à ce qui se passe derrière. Et ce que j'ai pu voir aussi dans les équipes dans lesquelles j'ai travaillé, c'est que quand il y avait une non-cohérence d'action, ça amenait une insécurité à l'enfant, au groupe d'enfants, à l'équipe, au groupe de l'équipe. Et puis, chaque fois qu'on arrivait ensemble à mettre du sens aux choses qui étaient pratiquées, eh bien, il y avait une cohérence. Ça fédérait, le sens fédère en fait, et puis ça amène une rassurance et une sécurité autant à l'enfant qu'à l'équipe. Donc c'est pour ça aussi que j'ai constamment cherché le sens. Je pense que premièrement ça faisait sens pour moi. Et puis après j'ai pu... Donc c'est vrai que quand j'observe quelque chose qui ne fait pas sens pour moi, je me questionne, c'est quelque chose qui est maintenant une logique, je me questionne qu'est-ce qui fait que ça ne fait pas sens et puis quel pourrait être le sens donné à telle action. Et c'est vrai que je ne m'engage pas dans des voies qui n'ont pas de sens. Ça, c'est...
C'est vrai que de ton côté, comme je disais tout à l'heure, tu t'es investie en faveur de cette qualité de l'accueil des enfants. Et puis c'est donc une mission qui est plus profonde finalement que le simple fait de faire un nombre de tâches. Je ne sais pas si on prend la fonction de direction, c'est plein de tâches à effectuer. Et c'est vrai que si on le considère avec cet angle-là, avec un cahier de charges, eh bien c'est aussi moins inspirant et intéressant à travailler. Et puis finalement, cette mission de direction pour toi, du coup, tu la vis comment ?
Bah, direction, c'est donner une direction déjà. Rien que le basique du mot, il implique ça. Donc, ma mission de direction, c'est ça que tu dis ?
Plutôt ta mission, pour toi, c'est quoi ?
Ma mission de direction, elle est vraiment d'amener toutes les personnes qui vont fréquenter la structure que je dirige, par exemple, c'est de les amener à évoluer dans le bien-être, dans leurs compétences, à connaître leurs compétences, à se révéler dans leurs compétences. Donc, que ce soit du plus jeune au plus âgé. Donc, c'est vraiment donner une direction. Et ce n'est pas moi qui vais la donner, en fait. C'est me tenir à côté d'eux pour qu'ils puissent par eux-mêmes réaliser, en fait, leur potentiel, leurs compétences et ce qu'ils ont envie de faire de leur vie. Et la mission que j'ai, c'est juste d'être là, hyper à l'écoute, de ne pas aller trop vite dans les réglementations et comment on appelle ça ?
Le cadre ?
Le cadre, oui. Mm-hmm. Parce que le cadre, il est bon s'il a du sens de nouveau. Mm-hmm. Mais si c'est un cadre qui est basé sur les craintes, qui pourraient être mes craintes de direction, mes craintes d'être mangée, mes craintes d'être envahie, de ne pas être respectée, bah, ça va donner un cadre qui est un peu contraignant. Alors que si je suis attentive qu'il y a une place pour chacun et quelle est la place bien définie et quel est le rôle de chacun et puis pour qu'il y ait des frontières en fait entre les responsabilités de chacun, bah du coup ça génère un esprit ouvert chez tout le monde en fait. Et puis c'est ça ma responsabilité et la direction que je donne, c'est vraiment de rester ouverte à ce qui arrive. Alors chaque situation nouvelle pour moi c'est des cas d'école, hein. Je sais pas tout à l'avance. C'est toujours le défi de ce type de management là, c'est de se laisser surprendre aussi par la nouveauté et puis de se dire ok, quel est le sens que je vais y donner et est-ce que j'ai envie de le donner, quoi.
Merci. D'ailleurs, justement, tu t'es formée à l'approche systémique. Est-ce que c'est aussi cette approche qui te permet de considérer... est-ce que déjà, c'est cette approche qui t'a dirigée dans cette vision-là ou est-ce que c'est l'inverse où tu t'es dit finalement, avec ma vision, il faut que je puisse avoir davantage d'outils. C'est quoi l'histoire de cette formation ?
L'histoire de la systémique, c'est que la vérité, quand je me suis retrouvée éducatrice avec les enfants, donc j'ai choisi ce métier parce qu'aussi j'étais peu à l'aise avec les adultes, voire pas à l'aise avec les adultes. Et puis quand j'ai réalisé que derrière chaque enfant, il y avait deux parents, ça a été l'angoisse pour moi. Et vraiment, c'était très très compliqué, mais physiquement, hein, je le sentais, j'avais des plaques rouges sur le corps. C'était quand je devais parler avec les parents, j'étais hyper démunie. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, quand je le raconte, les gens ne me croient pas parce que c'est vrai que je suis très à l'aise dans le verbal aujourd'hui. c'était terrifiant pour moi. Et puis, j'ai eu l'opportunité de travailler dans une crèche qui avait cette vision systémique. Et en fait, ce courant psychologique, c'est celui qui me parle le plus parce que justement, il tient compte de l'enfant dans un contexte ou du professionnel dans un contexte. Et on sait que l'environnement a énormément d'influence sur les personnes. Et puis, c'était de tenir compte de ça, en fait, et de ne pas accueillir un enfant sans son histoire, d'où il vient, le contexte familial dans lequel il évolue. Et puis, c'est pour ça que c'est un courant qui m'a vraiment intéressée. Mm-hmm. Parce que la famille, pour moi, c'est un lieu d'apprentissage énorme. Et au regard de la systémique, ça donnait vraiment plein de pistes. Aussi, les familles élargies. Après, je l'ai étendue au contexte professionnel, justement. Et puis, ça a été... C'est vraiment un outil que j'utilise constamment. C'est impossible de regarder un être humain sans considérer son histoire, en fait. Pour moi, mes enfants disent toujours « Oui, mais toi, tu comprends tout le monde. » Mais c'est pas que je suis d'accord avec tout le monde, mais je peux comprendre certains agissements de personnes qui seront peut-être à mon sens, pas la bonne action à mener, mais je peux en effet des fois voir pour quelles raisons cette personne agit de cette manière-là. Et puis après, il y a eu un autre... Donc ça m'a vraiment aidée à... C'était un outil incroyable pour que je puisse rentrer en relation avec ces chers parents qui étaient là. Parce que j'étais vraiment désemparée. Donc ça m'a donné déjà un premier outil, parce que je pense que on est... Enfin, je réalise avec les adolescents qu'on engage dans les structures qui ont 16, 17, 18 ans. Après, ben voilà, ils se forment et tout ça, mais j'ai bien vu que les jeunes de 17-18 ans, quand ils doivent échanger avec les parents, ben on n'a pas cette aisance. Donc, quels sont les outils qu'on va pouvoir leur mettre à disposition? Puis, c'est un des outils que je peux partager avec eux. Et puis après, il y a eu un autre moment dans ma vie qui a été très fort. C'est quand j'ai fait une formation de coaching aussi, parce que justement, c'est à travers de cet outil-là que j'ai compris la force du questionnement et de comment justement accompagner l'autre depuis où il en est et pas depuis ma perception et ma connaissance, parce qu'aujourd'hui j'ai 30 ans d'expérience, donc je vais forcément avoir des agissements qui vont partir de tout ce que j'ai appris, mais la personne de 28 ans qui se retrouve devant la même situation que moi, elle va forcément partir depuis où elle en est. Et j'avais pas cette connaissance là avant, où je me disais mais qu'est-ce qui fait que cette personne qui est professionnelle, donc elle a déjà des outils, n'agissent pas avec la même connaissance, enfin la même... En fait, ce qui s'est passé, c'est que souvent, des personnes me demandaient conseil. Donc, je donnais le conseil. Et je me disais, mais en fait, il n'applique pas le conseil. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le gap, là, en fait? Et c'est là où j'ai compris, à travers cette formation de coaching, que si je ne prenais pas le temps de voir d'où la personne part, quelles sont ses craintes, quelles sont ses possibles. Je disais, mais alors, toi, quelle serait l'action que tu penses la plus favorable et que tu pourrais mener? Ben, je me plantais, quoi. Et puis, ça ne donnait pas le fruit escompté. Et en effet, ça a été un énorme accélérateur dans le fait d'accompagner des gens. Enfin, je dis vraiment accompagner parce que je ne m'estime pas quelqu'un qui forme. C'est vraiment que je transmets, mais à partir de la personne où elle en est. Ça a été un deuxième déclencheur.
Oui, d'ailleurs, justement, je voulais en parler de cette formation de coach que tu as suivie parce que, d'ailleurs, tu m'avais accompagnée aussi quand j'ai repris la direction de la structure que je dirige aujourd'hui. Et puis, j'avais justement trouvé tellement utile d'avoir une mentor, une coach, une personne qui est là pour aussi s'arrêter avec soi, finalement, et puis réfléchir à la stratégie en étant focus que sur soi. Parce que souvent, quand on partage avec des amis ou d'autres collègues, eh bien, on fait des allers-retours, alors que là, dans cette posture que tu avais, j'étais le centre des préoccupations. Et j'avais trouvé ça porteur. Merci encore. Et puis, dans ton quotidien, justement, dans ton management, vraiment, est-ce que tu la vis comment, du coup, cette posture de leader coach?
Alors, ce que j'ai réalisé, c'est que rapidement, en fait, Donc, quand j'ai pris la boutique, puis qu'il y avait plein de choses que je ne maîtrisais pas du tout dans cette fonction de direction, parce que c'est en prenant le poste, finalement, qu'on découvre quelles sont les tâches et les actions qui sont à mener derrière et ce que ça implique vraiment. J'ai réalisé plus tard, parce que je ne savais pas que ça existait, que j'ai rapidement fait du management participatif. C'est-à-dire que j'ai ouvert aux équipes les problématiques que je rencontrais en disant voilà les enjeux, voilà ce que l'État demande, voilà où on en est et quelles sont les options. Et puis, moi toute seule, j'avais mes idées, mais alors là, j'ai tout de suite vu qu'une équipe, c'était bien plus riche que moi toute seule et puis que l'intelligence collective était juste incroyable. Donc, c'est ce qui a été mis en place rapidement et ce que j'ai poursuivi en fait dans ma manière de diriger une équipe. Et puis après, il y a eu des moments aussi très inconfortables parce que quand je me suis retrouvée dans des situations où tout d'un coup l'équipe disait oui mais là regarde ce qu'il y a et puis on n'est pas en accord avec ça, et puis donc des fois c'était pas forcément ce que moi je souhaitais, donc il y a dû vraiment y avoir des échanges, des discussions, des remises en question parce que j'avais pas tout juste. Et puis j'ai dû laisser tomber certaines manières de faire. J'ai pas d'exemple là concret, mais ce que je me souviens vraiment, c'est l'inconfort que ça m'amenait de me retrouver. On est quand même la personne qui dirige devant une équipe de 5, 8, 10 personnes qui disent « mais là, nous, on n'y est pas ». Donc, comment arriver à ne pas taper le poing sur la table en disant « finalement, je suis la directrice, je dirige », mais comment dire « ok, j'entends ce que vous dites, je vais aussi processer de mon côté et puis on va se remettre ensemble » et puis toujours rester dans cette discussion qui ne se ferme pas, en fait.
Rester en lien.
C'est ça, exactement. Rester en lien. Et puis, parfois, constater que je me trompais vraiment. Je pensais aussi que chaque éducateur avait une valise d'outils, ça oui, mais je pensais que chaque éducateur devait avoir un peu la même valise d'outils, c'était un peu ça. Et après je me suis rendu compte qu'en fait non, il y avait des forces dans chaque personne, il y avait des couleurs prédominantes dans chaque personne, et de laisser vivre ces couleurs-là, ça donnait une complémentarité à une équipe, une pluridisciplinarité à l'équipe encore plus forte. Mais c'était de faire confiance que les couleurs qui allaient émerger de l'équipe allaient former, je sais pas, si je prends une image, le plus bel arc-en-ciel qu'on aurait aimé avoir. Et c'est quand même un sacré lâcher prise en tant que direction. Je l'observe aussi en échangeant avec différentes directions. C'est quelque chose qui vient nous chercher, parce que d'avoir une fonction de leader, les yeux sont posés sur nous, il y a des attentes, et puis comment est-ce qu'on arrive à rencontrer l'autre sans imposer un pouvoir qui peut détruire et puis être malsain, en fait. Avant de détruire, il est plutôt...
Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que je me souviens que quand je travaillais à la boutique au départ, ça m'avait un peu... bouleversée dans mes habitudes, parce que j'avais plutôt l'habitude d'avoir une réponse toute faite, prête à l'emploi, où c'était des attentes que je pouvais avoir, et puis effectivement d'être ramenée constamment à sa propre responsabilité, et puis d'être en fin de compte responsable de mes décisions aussi, mais qu'on me fasse confiance, et puis qu'on me laisse cette autonomie. Alors c'est clair que parfois je me disais, ah mais c'est dur là, et en même temps c'est grâce à ça qu'on évolue et puis qu'on progresse. À l'inverse, si on est complètement contrôlé constamment, eh bien on peut pas exprimer son talent et puis sa créativité. Mais c'est vrai que pour ça il faut avoir une personne qui nous fasse confiance. Et puis ça c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ton management, cette confiance, et que j'essaye de laisser aussi naturellement, c'est dans mon équipe. Je redis aussi toujours justement que de base j'ai cette confiance en eux, sinon je les aurais pas engagée. Et puis j'attends pas de gagner la confiance. Pour moi elle est là au départ. C'est quelque chose que justement tu m'avais aussi partagé. Est-ce que tu veux peut-être partager cette image que tu donnes quand tu parles de confiance,
sur la confiance? J'aimais bien ce que tu relevais avant au niveau de la propre responsabilité, puis c'est justement quelque chose que j'utilise beaucoup en fait dans l'équipe. Mais au niveau de la confiance, on sait que j'ai plus le mot maintenant, mais qu'on a des bases de confiance, de capital de confiance qui peuvent, qui varient. Et puis, c'est d'être conscient justement où est notre capital de confiance, comment est-ce qu'on le nourrit, comment est-ce qu'on va justement remplir le vase de l'autre pour finalement parfois devoir dire, mais là, écoute, là, on n'y est pas, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est toujours dans ce lien, puis dans l'échange. Et j'ai remarqué que chaque fois qu'il y a eu des blessures, c'est parce qu'il y a des raccourcis et des non-compréhensions. Et ce que j'observe aujourd'hui dans l'équipe de la boutique, c'est qu'il y a des personnes qui étaient très réfractaires au projet, à certains axes du projet, mais qui, en ayant compris le sens, en ayant confiance en fait, que leurs actions allaient être soutenues, entendues, vues. Aujourd'hui, c'est des personnes qui défendent complètement le projet, alors qu'au début, elles étaient très réfractaires en disant « Non, mais là, si on fait comme ça, on n'a plus de liberté. » C'était vraiment aussi au nom de la liberté. Et puis, en fait, de les laisser agir dans leur sens, puis de les rejoindre, de leur expliquer qu'est-ce qui était derrière et tout ça, ça a donné qu'aujourd'hui, c'est elles qui défendent le « J'ai plus besoin, en fait. » Parce que ça a développé une culture de l'entreprise, et que chaque personne qui arrive à la boutique maintenant, elle va être imprégnée, elle va être par l'immersion dans cette ambiance-là. Et je vois vraiment, il y a des éducateurs ou des personnes en formation, on a tous un background, on doit tous se réconcilier avec nous-mêmes, parce qu'on est tous issus d'une scolarité où la note est venue donner un indicateur sur nos performances. Et puis là, en fait, d'arriver dans un milieu où en fait ce que tu fais est le bienvenu, ça change un paradigme énorme, et ça permet que la personne, il y a vraiment des détentes physiques qui sont observées après 2-3 semaines, et puis quand les personnes viennent voir la direction bonjour, je peux te déranger? Puis quand ils sentent qu'il y a un accès ouvert, ou alors que si je ne suis pas disponible, on a mis en place un code pour que la personne sache comment obtenir c'est pas un rendez-vous, mais comment obtenir de l'attention, un temps d'échange et tout ça, et bien ça se détend, quoi. C'est vraiment impressionnant comme...
Donc c'est vraiment aussi d'être disponible.
Oui.
Mais tout en... Enfin, comment dire ? Parfois, justement, on peut se sentir, tu le disais tout à l'heure, envahi. Mm-hmm. Et puis, comment toi, du coup, tu as pu réguler cette parce que l'équipe a besoin de venir voir, de partager aussi avec la direction. Et de quelle manière tu as réussi à trouver cet équilibre, justement ?
Déjà, en étant présent. En étant présent, en allant dans les groupes, moi, j'aime vraiment... être assise au milieu d'eux, échanger avec eux, ou sur la terrasse, ou c'est un peu comme une famille. Alors on est vraiment professionnel, c'est pas, je fais pas un amalgame là, mais quand un de mes enfants rentre dans la maison, salut, ça va, t'as une bonne journée. Enfin, il y a ça en fait qui se passe. Et puis je suis aussi issue d'une école où on me disait tes problèmes tu les laisses au vestiaire. Moi j'arrive pas, c'est quelque chose qui... Je suis une personne. Mmh. Ce que je vis dans mon univers familial va avoir un impact sur mon univers professionnel et vice-versa. Alors, je vais avoir la maturité pour ne pas le faire émerger ou faire des... ou laisser mes émotions complètement aller...
diriger.
Ouais, c'est ça, exactement. Mais si je viens, alors que quand mes enfants étaient petits, j'avais une nuit où j'ai dormi que 3 heures, forcément, en passant la porte, j'avais dormi que 3 heures. Donc c'était compliqué de dire, en posant ma veste dans le vestiaire, voilà, j'ai dormi que 3 heures, on va faire comme si j'en avais dormi 9. Donc c'est aussi d'accueillir ça. Et de, quand une personne arrive, je sais pas, quand les personnes passent la porte, c'est bonjour, le nommer par leur prénom, parce qu'ils ont une valeur aussi. Ne pas faire des raccourcis, c'est comme tous les surnoms, ça peut être attachant, mais le nom de la personne a une valeur et il est dans son entièreté, donc je vais le considérer dans son entièreté, et puis être attentif à les connaître. Donc c'est dans le lien, dans la relation, c'est avoir des pauses avec eux, c'est aussi créer des moments autres que le travail, pour qu'on puisse se découvrir ailleurs et autrement, et puis aussi casser ces codes qui sont liés à des statuts et des fonctions, à une hiérarchie, mais de dire, ok, si on se voit dans un autre... d'ailleurs, on avait fait une sortie où tu étais présente, où on était partis faire de la raquette nocturne à pleine lune, juste pour nommer ça, tous les codes, c'est fini, il n'y a plus de... stagiaire, apprenti, éducateur.
On est des personnes.
On est des personnes avec. Et puis là, dans un contexte complètement différent que le professionnel, on se rend bien compte quelles sont les personnes qui ont les ressources de vivre la montagne, la nuit, à la pleine lune. Et on l'a vu, quoi. Et c'est aussi de créer une ambiance dans l'entreprise qui génère ça, en fait. Et puis, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on sent que c'est dans la culture, parce que les gens viennent avec ça, avec des idées. Les apprentis, stagiaires aussi, racontent de plus en plus leur vie. Ça ne se fait pas dans le lieu de vie avec les enfants, mais on est des humains à part entière. Et je crois que c'est une erreur de dire qu'on doit séparer notre vie privée de notre vie professionnelle. Je pense qu'il y a une intelligence en nous qui fait qu'on arrive à les manager les deux ensemble, en fait.
Absolument. D'ailleurs, je crois que l'équipe t'a fait un beau cadeau pour une belle surprise pour tes 50 ans, justement, en organisant une fête surprise. Oui. Ça montre aussi à quel point vous faites partie ensemble d'une équipe, mais aussi de considérer cet événement qui est quelque part quelque chose qu'on fêterait plus dans le privé. Et puis c'est là, non, en fait, elles t'ont organisé une belle fête.
Ouais, là, c'était juste surprenant parce que c'est la première fois qu'elle me fêtait comme ça. Et puis, alors, c'était 50 ans, c'est un cap quand même, j'ai passé 50 ans. Et puis, j'étais très surprise parce que on a une relation agréable dans le travail, mais ce n'est pas des personnes avec qui je vais forcément voir le week-end, boire des verres, manger. Je reste la directrice et j'étais hyper surprise, en fait, qu'elle souhaite me fêter et m'organiser à un moment où on peut rire ensemble, partager, et elles m'ont vraiment célébré. Et ça, c'était juste un énorme cadeau, une reconnaissance. Et puis, elles ont vraiment verbalisé, mais on aime tellement la manière dont tu es avec nous, tu es tellement généreuse avec nous. Alors que je ne suis pas Si seulement je pouvais être généreuse financièrement, par exemple, mais généreuse en temps, généreuse en relations, généreuse en écoute. Et ça, en fait, je pense que c'est aussi ça, quand tu parlais de bonheur au travail, ça génère ça. Ça génère que je vois des personnes qui ont des vies familiales qui ne sont pas simples. Je veux dire, il y a des ados qui vivent dans des contextes familiaux qui ne sont pas simples non plus. Mais ils arrivent à venir travailler parce qu'ils savent que dans ce lieu-là, ils auront cette liberté d'être qui ils sont, d'être des professionnels et puis d'être entendus. De pouvoir, si tout d'un coup ils ont besoin aussi une fois de lâcher quelque chose, ben, il y aura l'espace pour lâcher quelque chose dans un cadre sécur et ils sauront que ce ne sera pas après galvaudé ou répandu sur la place publique. Quoi.
C'est intéressant, c'est vrai que je partageais une fois avec une directrice qui. Et je trouvais intéressant cette vision de penser plutôt à la juste proximité plutôt qu'à la bonne distance professionnelle. Mm-hmm. Puis la juste proximité, c'est aussi ce que tu dis là, c'est finalement ben oui, d'être en lien, de savoir. Garder aussi sa place sans pour autant ben oui, passer toute sa vie ensemble.
C'est ça. C'est intéressant comme tu le nommes parce que la juste proximité, je pense que c'est vraiment. Ouais, c'est une bonne dénomination. En fait,
autant en tant que direction avec son équipe, mais avec les parents ou avec l'enfant. Mm-hmm. Je trouvais que c'était aussi une approche qui m'a.
Et puis je trouve vraiment compliqué de demander à une équipe d'avoir une attention avec les enfants, d'être justement dans cette juste proximité, si eux-mêmes n'ont pas l'appareil. Donc c'est quand ils l'expérimentent vraiment qu'ils peuvent aussi après la transmettre. Mm-hmm. Donc on a besoin là d'avoir une cohérence et puis ouais, de retrouver cette même cohérence-là. Sinon c'est violenter le personnel que de ne pas, enfin à mon sens, hein, que de ne pas avoir cette même approche. Si en tant que direction, je suis hyper stricte en articulant que mes articles de règlement, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Puis après, je dis non, mais quand un enfant est dans cette attitude, mais qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à l'accueillir? C'est-à-dire que c'est compliqué. On sait qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Ou alors, il faut vraiment une très, très grande faculté. Et je pense qu'après, c'est quand même un peu faussé. Puis on sait comme les enfants sont essentiellement des êtres d'émotion et de ressenti, ça va être compliqué pour eux de vraiment... accueillir le soutien qui est donné. Donc je pense que c'est vraiment aussi ça découle sur
mais c'est ça.
Surtout,
en fait. Je pense que tu dis l'enfant a un être d'émotion et enfin tout être humain sommes des êtres d'émotion.
Oui.
Donc c'est clair que de pouvoir laisser la place à chacun de pouvoir la vivre, enfin, les vivre. Et puis c'est vrai que ça me questionne parce que parfois on dit on a le droit de ressentir des émotions ou puis ça me questionne aussi, parce que je me dis, c'est pas un droit, c'est juste physiologique.
C'est ça, c'est humain.
C'est juste humain.
Ça, en fait. On est créé comme ça, et puis depuis tout petit, comme notre cerveau, il n'est pas encore dans la maturité qu'on a aujourd'hui, à l'âge qu'on a, c'est ça qui prévaut. On ressent l'émotion en premier, on ressent et on vit l'émotion en premier. Et puis alors, quand on est adulte, on devrait ne plus passer par là. Mm-hmm. Et là, il y a un truc
qui est pas naturel.
Exactement.
En fait.
Ouais.
Si maintenant tu devais encore donner un conseil à ceux qui nous écoutent pour cultiver justement ce bonheur et ce bien-être au travail, de toute ton expérience que tu as ou de ce que tu observes dans certaines structures aussi, quels seraient vraiment des conseils que tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent?
Je pense qu'une des choses qui est primordiale, c'est d'être bien avec soi-même. Et comme on l'a dit là, juste tout maintenant avec les émotions, je pense qu'il est essentiel pour chaque être humain de s'arrêter et de considérer qu'est-ce qui se passe en nous, quoi. Mm-hmm. Quelles sont les émotions qui sont, quelles sont les retenues, quelles sont les frustrations, quelles sont les joies, comment se passent les choses, qu'est-ce qui fait que certaines choses se passent bien alors que d'autres moins bien. Puis d'avoir du temps là, je pense que c'est vraiment... Ouais, de pouvoir, je parlais au tout début, de respirer, ben, de prendre ce temps de respirer, de s'arrêter et de s'offrir cette... c'est comme un cadeau, quoi, parce que notre vie aujourd'hui, je la vois dans la majorité des gens que je fréquente, c'est... Rares sont ceux qui arrivent à prendre du bon temps pour eux et à s'arrêter et puis à se dire non, mais en fait là, j'ai vraiment besoin de m'arrêter parce qu'après, ça me permettra d'être plus adéquat, plus performant même. Et... Ben là, par exemple, quand on travaille en institution préscolaire et parascolaire, ben, les enfants, ils sont dans une constante sollicitation. Donc, on peut franchir la porte de la structure le matin et quitter le soir. Et on passe d'une action à l'autre parce que c'est complètement suffisant, en fait. Et si on n'a pas des fois l'opportunité de s'arrêter et puis dire, mais en fait, qu'est-ce que je fais vraiment de mes journées? Comment est-ce que je me positionne? Qu'est-ce que je veux vraiment transmettre? Eh ben, on peut passer d'un jour à l'autre et puis finalement, est-ce que c'est vraiment ça que l'être humain souhaite?
Mmh. Être aligné en fait avec,
exactement.
Avec ses valeurs, ses aspirations et puis réfléchir en fait à comment aussi construire ses journées ou ses semaines pour créer des espaces-temps aussi.
Mais oui. Et puis le lien quoi, je crois que c'est... Si je devais donner un conseil, alors j'aime pas trop en donner, mais le lien, quoi. Je crois que la relation est primordiale à l'être humain. Et il est justement, on peut au travers du lien sentir plein de choses. Et donner de l'importance au lien, prendre le temps du lien. Et ça, c'est vraiment, pour moi, quelque chose qui prévaut.
Absolument. Oui, puis aussi, ce que je me rends compte, c'est que si on crée, enfin, en tant que direction aussi, si c'est... Toi qui vas à la rencontre de ton équipe plus fréquemment, ben peut-être on se sent aussi moins envahi parce que les personnes ont l'occasion de nous partager au fur et à mesure certaines situations sans pour autant s'enfermer dans son bureau et puis attendre que les questionnements arrivent les uns après les autres. Donc,
puis aussi
c'est de chercher à être en lien.
Être en lien, oui. Et puis être en lien aussi en exprimant nos vulnérabilités, nos écueils, ce qui ne fonctionne pas, les choses qui... Parce que... Je me souviens d'un jour, quelqu'un qui me disait « Mais en fait, toi, on a l'impression que tu gères tout. » Donc en fait, Et puis j'ai dit « Waouh, punaise, mais si c'est ça ce que je reflète, alors c'est ok. » Oui, forcément, en tant que direction, je vais devoir passer certaines choses, tenir le cap, que l'équipe ait confiance, que je suis quelqu'un qui tient le cap, justement. Mais si la perception qu'ils ont de moi, c'est uniquement la personne qui réussit tout. Alors que moi, je sais quand je pleure et quand j'ai des moments de doute et où je me dis punaise, mais là, je ne vais pas y arriver, là, je veux arrêter. Là. Mm-hmm. Et, mais alors, comment est-ce que je me rends aussi transparente là pour qu'ils se rendent compte que ce n'est pas acquis, en fait. Mm-hmm. C'est un processus constant. Et en effet, est-ce que je les laisse paraître ou pas?
Mm-hmm.
Donc, c'est aussi être dans cette ouverture-là.
Donc ça, tu le fais comment justement? En t'arrêtant, en respirant, en venant ici au chasseron?
Oui.
Comment tu fais pour tenir le cap? Parce que c'est vrai qu'on vit quand même une année et demie là, qui est quand même bien intense avec cette crise sanitaire. Et ça a quand même bien changé aussi nos missions, notre quotidien. Et comment du coup, toi, tu fais pour réussir à garder ce cap?
Ben, en effet, je viens ici,
mais
j'ai la chance d'avoir un réseau d'amis et de personnes qui sont vraiment des personnes avec qui je peux parler en toute confiance, qui m'aident aussi, qui me posent les bonnes questions pour que je puisse garder la vision d'où je vais. Et puis, parce que c'est vrai que cette année-là, on ne voit pas très loin, en fait. Hein, donc, ma vision a été réduite, si je peux parler comme ça. Et puis, c'est de se dire, OK, je vais faire confiance que le bout que je vois est suffisant. Puis, faire confiance à ce qui vient. Donc, j'ai aussi un réseau de personnes autour de moi qui m'écoutent beaucoup. J'ai un mari qui est bourré de bon sens. Donc, c'est aussi le meilleur allié que j'ai. Et qui prend... Bah, forcément, c'est lui, quand je passe la porte de la maison, qui est là.
Tu ne laisses pas...
Neuchâtel. Non, je ne laisse pas Neuchâtel malgré le trajet. Et puis, donc c'est intéressant, mais j'ai des enfants, j'ai des jeunes adultes maintenant, donc c'est aussi des personnes qui me poussent à réfléchir autrement, aussi par rapport à leurs défis au niveau de l'âge qu'ils ont, dans le contexte qu'ils évoluent. Donc, je reste en contact avec les gens les plus proches de moi, j'ai une famille hyper présente aussi, des amis, et puis, dans le travail, c'est un lieu où... J'aime vraiment aller parce que c'est un lieu où je m'y sens bien, je sens que les gens y sont bien aussi. Donc, c'est des lieux aussi quand même où je respire.
Mm-hmm.
Et malgré la crise qu'on est en train de passer, en effet, c'est vraiment un lieu où quand je vois les enfants comme ils sont dans leur liberté, spontanéité, je me dis, eux, ils n'arrêtent pas de respirer. Mm-hmm. C'est vrai que ça m'oxygène aussi de les voir. On rit beaucoup.
Mm-hmm.
On est un lieu où on rit beaucoup, en fait. Donc ça aide aussi.
C'est vrai que c'est souvent ce que je dis aussi à mes équipes, on a beaucoup de chance en fait d'avoir un environnement dans lequel les enfants en fait eux ils sont pas impactés par tout ça, ils sont tous les jours dans l'instant présent et puis on devrait beaucoup s'inspirer je crois d'eux. et vraiment d'avoir de la chance de moi quand je passe le pas de la porte, effectivement, c'est la vie en fait que je retrouve. Donc ça c'est vrai que c'est un cadeau qu'on a dans nos réalités professionnelles.
Mmh. Et un autre espace qui me fait beaucoup de bien, c'est la lecture. Je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que ce soit le roman, mais aussi le livre ou éducatif ou alors plus philosophique. C'est un outil que j'aime beaucoup lire en fait.
Si tu avais d'ailleurs un livre que tu pourrais nous conseiller.
Il y en a un que j'aime, enfin il y en a plusieurs que j'aime beaucoup, c'est le Transmettre. Je ne sais plus l'auteur maintenant, mais c'est plusieurs auteurs qui
se sont... Transmettre, ça s'appelle ?
Ouais, ça s'appelle Transmettre, il y a des petites fourmis dessus.
D'accord.
Actuellement, je lis beaucoup toutes ces nouvelles connaissances qui arrivent au travers des neurosciences et qui changent nos axes d'action avec connaissance justement pour accompagner les enfants. Et il y a tout un livre qui est écrit par Josette Serre, qui a écrit justement sur comment les neurosciences vont changer l'application des actions dans les structures préscolaires. Elle parle vraiment du 0 aux 3 ans, parce qu'ils ont plutôt des observations sur la France, puis après c'est l'école. Et puis c'est comment, en fait, elle exprime très clairement comment est-ce que les crèches sont devenues des crèches, en fait. Et puis d'abord, on était issus plutôt du sanitaire. Et puis quand l'humain, au travers de toutes les découvertes qu'on a faites sur l'enfant, comment fonctionne son cerveau, puis qu'il pense déjà avant de parler, donc il y a déjà quelque chose qui se passe, eh bien, on a plutôt pris ce qui était déjà connu, ce qui marchait déjà bien, qui était l'école, et on l'a appliqué au préscolaire. Et en fait, là, il y a une erreur
s'est
produite. Et puis, il faut le revisiter. Donc aujourd'hui, il y a pléthore d'écrits. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui observent. On commence à avoir beaucoup d'études scientifiques qui viennent soutenir tout ce qui se fait au niveau de l'éducation. Et aujourd'hui, c'est ce que je lis majoritairement parce que ça va guider ce qui se fait dans mes pratiques. Et puis, c'est aussi comment le transmettre rapidement parce que c'est tout nouveau. Mais je trouve que si on n'applique pas ces choses-là, si on n'est pas attentif à l'environnement qu'on propose à un enfant, comment le laisser explorer parce qu'on sait qu'en lui, il a tout en lui pour justement, si on lui offre un environnement sain, varié, multiple, en explorant, il va faire ses premières découvertes et que s'il n'a pas été assez dans ses milieux d'exploration, ça va être compliqué pour lui après d'apprendre. Et du coup, si les lieux actuels ne favorise pas ce type de réflexion, on glisse encore sur des pentes de maltraitance. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est tout petit. Ben voilà, ils en pâtissent. Parce que les lieux de collectivité, c'est beaucoup de choses qui passent.
Merci Esther. Encore du sens encore sur la mission, justement. Ne pas s'arrêter sur des acquis. Et puis, heureusement, il y a tout le temps des recherches qui nous permettent de faire évoluer nos pratiques et puis d'être au plus juste. Enfin, depuis plusieurs années, on s'intéresse vraiment au développement des neurosciences chez l'enfant. Et je suis pleine d'espoir, en tout cas, de toutes ces découvertes. Et on voit déjà des changements dans certaines écoles qui pratiquent. Qui veulent aussi inspirer des choses.
Parce que ça rejoint tellement nos tripes, ça rejoint tellement, quand on a observé des enfants ou eu des enfants, ça rejoint tellement ce qu'on ressentait que lorsqu'on prend conscience de ça et qu'on peut mettre des mots dessus, les changements de pratique sont tout de suite, on les voit tout de suite. Et c'est ça la force de tout ça et que je trouve vraiment très réjouissant, comme tu dis, c'est que les choses vont très vite, le changement arrive très vite en fait.
Exactement. Mais merci Esther. De ton côté, qu'est-ce qu'on peut encore te souhaiter pour les années à venir? Est-ce que tu as des projets que tu aimerais partager pour les années à venir?
De rester dans cette constante, j'appelle ça mouvance, mais voilà, dans cette évolution et dans le lien. Et puis, un des rêves que j'avais aussi, et je t'en avais déjà parlé, c'était de pouvoir commencer à écrire. Parce que j'aime l'écrit, j'aime les mots en fait. Je suis au tout début d'un projet d'écriture et puis de me laisser guider là pour voir justement d'où je viens, comment j'en suis arrivée, quelles ont été mes étapes de croissance, quels ont été les apprentissages que j'ai fait au fur et à mesure des rencontres de ma vie ou des inconforts de ma vie, quels ont été les outils que j'ai développés et puis pour pouvoir justement transmettre et puis le faire de manière dans le lien. Et donc c'est vraiment de trouver comment toutes ces choses vont se mettre en place.
Donc on te retrouvera certainement souvent au chasseron en train d'écrire ou de t'inspirer.
Il paraît que la marche va de pair avec l'écriture, donc peut-être que
on se croisera. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ce moment de partage très riche et puis j'espère que les personnes qui nous auront écoutées auront autant de plaisir que j'ai moi à t'écouter. et à partager régulièrement. Donc, je te remercie. Et,
Merci à toi, en tout cas, pour l'inspiration que tu es constante aussi dans le milieu dans lequel on évolue, mais aussi dans l'axe que tu as donné à ton parcours personnel et professionnel. Et puis, je me souviens toujours le jour où tu as passé la porte du bureau en disant « Mais dans le règlement, non pas dans le règlement, dans la ligne pédagogique, je lis ceci, mais dans le concret, je crois que nous n'y sommes pas. » Et là, je me suis dit « Waouh, si des gens comme ça interpellent les directions, alors le changement arrive. » Et en effet, nous avons soit repris la ligne écrite, puisqu'elle était, elle faisait peut-être plus sens, en fait, parce qu'on avait évolué, soit alors nous avons réorienter nos actions pour voir ce qui concrètement dans nos pratiques ce qui se passait dans la ligne pédagogique. Donc merci d'être cette personne qui ose dire et qui met tout en douceur et avec beaucoup de justesse, sagesse et connaissance aussi. Donc ça fait sens toujours.
Merci.
Donc merci vraiment pour ce que tu fais, Catherine.
Merci pour ton feedback. Je me rappelais pas, mais je suis pas étonnée parce que j'ai un grand besoin de cohérence.
C'est ça.
Donc, mais merci pour ce partage et puis très bientôt.
Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.